Pouvoir et territoire pour ceux et celles qui ont séché les cours d'éducation civique.
Et bonjour tout le monde.
Et bonjour.
Voilà. Pour cette troisième émission consacrée au canton, avant de la commencer, on voulait juste préciser aux auditeurs et tristes que le générique est issu de l'album Moresca, du groupe Moresca, l'album Bartas, hein, on a bien trouvé, en 2008, un groupe de Montpellier.
Super. Donc, aujourd'hui, on va parler des cantons. Les cantons, chez nous, en Occident, on dit Loukantou. Loukantou, c'est le coin, en fait. C'est l'étymologie, déjà, de ce mot. Et on retrouve, du côté historique, en fait, on retrouve ce mot en 1243. Et c'était le canton de la ville. Donc, j'imagine, j'en sais pas plus, peut-être que nos auditeurs et nos auditrices, ils savent que ce devait être une sorte de quartier de la ville. Voilà, ça, c'était un petit peu pour l'histoire très ancienne. Mais je crois, Alexei, qu'on va commencer notre histoire à la Révolution française, ouais. Comme un petit peu toutes nos histoires.
En fait. Voilà, comme un petit peu toute l'histoire de chaque institution territoriale de la France. Et donc, effectivement, les cantons en France ont été créés par un décret du 22 décembre 1789 de l'Assemblée nationale constituante qui prévoyait, outre les cantons, l'organisation, alors c'est encore le Royaume de France à l'époque, mais plus pour très longtemps, 75 à 85 départements, chaque département serait divisé en 3 à 9 districts, et chacun de ces districts serait divisé en cantons. Voilà.
Et cantons qui était basé sur une superficie, en fait.
Tout à fait. Lors d'environ 4 lieues carrées, alors 4 lieues carrées, ça fait à peu près 18 km², mais c'est une base géographique, tout à fait.
Oui, géographique et certainement aussi sur la base forcément du déplacement à pied ou en charrette, comme à l'époque. Donc c'est important quand même de savoir que tout ça, ça a été créé encore pendant la royauté et pas sous la République.
Exactement. Bon, l'organisation, elle, est mise en place en 1790 avec à peu près entre 40 et 60 cantons qui sont créés dans chaque département. Mais bon, alors pour la petite histoire, la convention en 1793 supprime le canton, mais la constitution qui institue le directoire les rétablit en 1796.
Voilà, enfin, c'était les joies du post-révolutionnaire qui a beaucoup bougé.
Exactement. Et alors c'est intéressant quand même, même si c'est anecdotique, de préciser qu'en 1795, une précédente constitution qui avait supprimé les districts avait créé une municipalité de canton qui renvoie à donc vraiment un territoire quotidien.
Hein. D'accord. Puis, mais les municipalités n'avaient pas disparu quand même, les communes.
Non, c'était une autre municipalité qui avait pris quelques prérogatives des communes, puisque de 1798 à février 1800, les mariages étaient célébrés au chef-lieu de canton et non en mairie de la commune.
D'accord. Voilà. Ah oui, donc là, le canton avait cette compétence, en fait, état civil.
État civil pendant deux ans.
Ouais, ouais, d'accord. Bon, mais bon, c'est intéressant, je ne savais pas, en tous les cas. Et du coup, ah oui, en 1800, il y a eu les arrondissements de créer.
Voilà, en remplacement des districts, on crée les arrondissements en 1800, et donc les cantons sont regroupés par arrondissement, et donc on peut dire officiellement que le canton est une subdivision de l'arrondissement.
Ce qui reste aujourd'hui.
Ce qui reste aujourd'hui, voilà.
Enfin, jusqu'à preuve du contraire, parce que nous allons voir que les choses évoluent beaucoup en ce moment. Enfin, en tous les cas, là, on est toujours là. Voilà. Alors, la suite, 1801.
1801, la loi du 8 pluviose de l'an 9. J'aime bien vous donner des dates comme
Ouais. C'est beau, en plus. Voilà, hein. Pluviose, c'était quel mois, ça?
Eh ben, c'est un... Voilà, c'est
janvier. Oui, heureusement, tu l'as écrit à côté. Je suis pas très bonne.
Et donc, cette loi de 1801 prévoit, en fait, non plus 40 à 60 cantons par département, mais moins de 30 à 50 par département, avec ce fameux découpage réalisé sur une base géographique, ce qui nous a donné, à cette époque-là, en 1801, environ 3000 cantons sur l'ensemble du territoire français.
D'accord. Puis on est resté quand même pendant très longtemps sur une base à peu près identique, c'est-à-dire grosso modo de 1800 jusqu'à aujourd'hui.
Ça
donc 220 ans.
Tout à fait. Oui.
215 ans. Ça n'a pas beaucoup bougé.
Ça n'a pas beaucoup bougé puisque aujourd'hui, 60% des cantons d'aujourd'hui sont les cantons d'origine de 1801. Alors, il y a quelques cantons qui ont été supprimés. Trois petits cantons ruraux des Alpes de Haute-Provence, hein, du côté de la vallée du Verdon, qui ont été supprimés. Trois cantons urbains qui n'étaient pas assez peuplés, à Lyon, Marseille ou au Havre. Et par contre, il y a beaucoup de nouveaux cantons urbains qui ont été créés dans les zones de croissance démographique.
D'accord, oui. Quand les villes ont grossi, en fait, on les a redécoupés en cantons.
Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près 4000 cantons, c'est-à-dire 1000 de plus qu'en 1801.
D'accord. Alors le canton, du coup, sur cette base-là, c'est On connaît beaucoup le canton comme entité électorale, puisqu'on y élit les conseils généraux, ça on y reviendra. Mais c'est quand même aussi, en tous les cas, surtout au départ à l'origine, c'était quand même considéré comme une entité territoriale.
C'est une entité territoriale.
Et ça le reste encore aujourd'hui.
Complètement.
On va voir que peut-être ça ne va pas trop le rester, mais en tous les cas, c'est bien ça.
Oui.
Et donc, le chef, c'est pas le chef du village, c'est le chef du canton. On les lit
aux élections cantonales.
Les conseillers généraux, au suffrage universel depuis quand ?
Oui. Oh, depuis à peu près 1846. Alors, suffrage universel de 1846, oui. Ce sont que les hommes de plus de 21 ans, voilà. À certaines conditions. Enfin, après, du coup, ça, vous faites l'élection cantonale a suivi le mode, les évolutions du scrutin universel.
D'accord.
Alors, par contre, au cours du temps, des écarts sont apparus entre les cantons selon les départements.
Oui, et oui, voilà. En fonction des mouvements démographiques.
Exactement, notamment avec l'exode rural dans les zones, dans les zones agricoles notamment. On s'est retrouvé avec des départements qui avaient de nombreux cantons qui étaient peu peuplés, et à l'inverse, des départements avec peu de cantons mais qui étaient très peuplés.
Bon. Oui, d'accord. Ouais.
Alors, c'est une sorte de déséquilibre démographique finalement, qui a été pointé du doigt dès 1985 par le Conseil constitutionnel, qui a jugé que sur le principe, les élus des assemblées départementales, mais finalement de n'importe quelle assemblée représentative au niveau de la démocratie, devaient être élus sur des bases essentiellement démographiques pour respecter l'équilibre des
populations. D'accord, c'était l'idée qu'il y avait trop de conseillers généraux en zone rurale, on va le dire comme ça, quand même, par rapport à la zone urbaine. C'est-à-dire une proportion par habitant.
C'est tout à fait ça.
Donc,
c'est une idée d'équité démographique qui a été plusieurs fois réaffirmée, et qui a amené, depuis 1985, à différentes réflexions. Et il est apparu, en tout cas aux yeux des politiques, qu'un profond redécoupage des cantons était nécessaire. Et donc, dès 2010...
Donc, 25 ans après, quand même.
Voilà, exactement. les choses vont
à leur rythme.
Dès 2010, la réforme des collectivités territoriales prévoit un remodelage général du découpage des cantons. Elle est là, non plus sur une base géographique, mais sur une base démographique, comme pointé par le Conseil constitutionnel en 1985. Donc la première idée était de faire un découpage vraiment partout pareil, un canton pour 20 000 habitants et par canton un conseiller territorial qui siégerait au département et à la région. Bon, cette première idée a été abandonnée et c'est une deuxième idée qui a été mise en place avec un tableau de répartition qui établit un nombre de conseillers par département et donc du coup un nombre de cantons. Donc le projet a été adopté en 2010, le tableau de répartition a été modifié plusieurs fois. Et puis cette loi, finalement, de 2010, a été abrogée en 2012, au changement de la présidence de la République.
Mais il recommence.
Voilà, et donc en fait, cette loi a été abrogée avant même qu'elle soit appliquée.
Oui, d'accord.
Et il y a une nouvelle loi qui vient en remplacement, qui est la loi du 17 mai 2013, donc qui est très récente, qui a un an, et qui définit le redécoupage des cantons français avec des décrets d'application de cette loi qui ont été publiés en février et mars 2014.
Donc on est vraiment hier.
On est dans l'actualité.
Voilà, on est vraiment dans l'actualité. Donc, toujours quand même sur cette base de la notion démographique, quand même, donc d'un rééquilibrage démographique des cantons.
C'est ça, c'est le principe d'une équité, démographique, c'est comme ça que c'est présenté.
D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, ce nouveau redécoupage ? Je sais pas, on fait une pause musicale, non, c'était prévu pour quand, la pause, maintenant ?
Oh, on peut la faire maintenant, la pause musicale, c'est bien. Justement, on parlait des anciens cantons, on va parler des nouveaux.
Voilà.
Mettons une petite pause musicale.
Allez, une petite pause, Aurélien.
C'est dans tous les cantons, y a des filles et des garçons qui veulent s'y marier, c'est la pure vérité. Les garçons vont les voir, le plus souvent le soir, les filles se réjouissent. Quand elles voient leurs amis, elles se disent en souriant, le voilà mon amant.
Elles se disent en souriant, le voilà mon amant.
Quand vous vous mariez, il faut tout abandonner, même les agréments d'être avec les jeunes. Pour rester au logis, pour plaire à son mari, vous êtes marié par votre volonté. Vous avez pris Marie qui doit être obéie.
Vous avez pris Marie qui doit être obéie.
Jeune fille, écoutez, qui voulait vous marier, car votre engagement vous causera du tourment. Vous prenez un état de peine et d'embarras, bien souvent du chagrin, sans en connaître la fin, qui vous fera regretter la maison que vous quittez.
Qui vous fera regretter la maison que vous quittez.
L'auteur garde cette chanson, ce vieillard de ce canton qui n'a pas regretté le jour qu'il s'est marié. Il a pris un gibier qu'il a su conserver. Elle a des qualités qu'il n'a pas pu nier. Que chacun fasse comme moi qui chante ce qu'il sait.
Que chacun fasse comme moi qui chante ce qu'il sait.
Alors voilà, c'était une chanson de André Bertrand qui chantait en 1965 dans tous les cantons sur des paroles d'Albert Viau de 1952, ce qui ne nous rajeunit pas tout à fait.
Et donc, eh ben maintenant, on va revenir en 2014 et donc parler du redécoupage cantonal.
Voilà, donc on parlait tout à l'heure de la loi de 2013 et des décrets d'application de février et mars 2014. Alors cette loi et ces décrets rappellent que les cantons sont des circonscriptions électorales, on l'a vu, ça ne change pas, qui permettent l'élection des assemblées départementales, lesquelles sont rebaptisées conseils départementaux. Jusqu'à là, pas grand-chose de nouveau.
Oui.
Hein, donc on a vu que c'était une volonté de rééquilibrage démographique des cantons, puisque 60% des cantons actuels n'ont pas changé depuis 125 ans. Et pour faire appliquer cette loi, il y a eu une circulaire du ministère de l'Intérieur du 13 avril 2013 qui s'appelle « Méthodologie du redécoupage cantonal en vue de la mise en œuvre du scrutin ». Donc on est bien sur des bases électorales, hein, c'est important. Et donc cette circulaire précise au préfet la procédure d'élaboration des projets départementaux sur la base de la population légale recensée en 2010, avec un nombre minimal de cantons par département selon la population. C'est-à-dire pour les départements qui ont plus de 150 000 habitants, c'est 13 cantons au minimum pour le département. Pour les départements qui ont plus de 500 000 habitants, c'est 17 cantons.
Alors pour ceux qui ont moins de 150,
et ben c'est la base
des, il n'y en a pas beaucoup, mais...
c'est la loi des 150 000 habitants.
Ah d'accord.
Qui est mise en place. Et donc, par exemple, en Lozère, on a actuellement 25 cantons et on passera à 13 cantons.
Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, ça fait diviser par deux.
À peu près. Alors, l'élection des conseillers départementaux sur la base de la circonscription électorale du canton se fera au scrutin majoritaire, binominal et paritaire à deux tours.
Alors là, on ne comprend rien.
Alors, scrutin majoritaire, ça on comprend, ce n'est pas trop compliqué. Celui qui a la majorité qui l'emporte. Mmh. Binominal, ça veut dire qu'il y a deux noms. Alors qu'on votera plus pour un seul conseiller, mais pour deux conseillers. Ah, oui. Et paritaire, parce que ces deux conseillers, il y aura forcément un binôme, homme et femme.
Voilà, d'accord, paritaire, c'est ça, homme c'est et femme. Ça. Donc on vote, en fait, comme aujourd'hui, sauf que c'est pour un binôme.
Pour un binôme, voilà. Donc chaque canton sera représenté par deux conseillers départementaux, un homme et une femme. C'est un principe de parité, finalement, qui a été proposé, voire un petit peu imposé, par la délégation parlementaire aux droits des femmes, puisqu'aux dernières élections cantonales, moins de 14% de femmes avaient été élues dans l'ensemble des assemblées départementales françaises et ça avait été considéré comme trop peu représentatif de la population.
Bon, c'est un peu artificiel c'est, tout
c'est
ça.
C'est une parité imposée.
Ouais, parité imposée.
Donc du coup, pour résumer un petit peu entre les anciens cantons et les nouveaux, avant, on avait une élection cantonale, après, ça deviendra une élection départementale. Mais sur le fondement, ça ne change rien. Avant, on avait une assemblée départementale, après, ça s'appellera un conseil départemental, mais ça ne change rien. Avant, on avait des conseillers généraux, qui s'appelleront conseillers départementaux, ça ne change rien. Avant, ils étaient élus pour 6 ans, mais les conseillers généraux étaient renouvelés par tiers. Hein, oui. C'est-à-dire que la moitié de l'Assemblée était renouvelée tous les deux ans.
Tous les deux ans, oui.
Après, tous les conseillers départementaux...
Donc maintenant, il n'y a plus de renouvellement.
Hein, voilà, il n'y aura pas de renouvellement partiel, ce sera une élection pour 6 ans pour tout le monde. Et bien, ce qui change, par contre, c'est évidemment le nombre des cantons, puisqu'on le divise, par exemple, en Lozère par deux, mais c'est valable à peu près partout, finalement. Aujourd'hui, on a en France 3971 cantons qui ont donc chacun un conseiller général. Donc ça fait 3971 cantons et 3971 conseillers. Après, selon cette loi du redécoupage, on aura en France seulement 2054 cantons, c'est-à-dire quasiment la moitié. Pour par contre, comme il y aura deux conseillers par canton, 4108 conseillers. C'est-à-dire que finalement, on divise par deux le nombre de cantons et on reste à peu près sur un nombre de conseillers équivalent à aujourd'hui.
D'accord. Après, là où je ne suis pas complètement d'accord avec toi, c'est que là où ça change quand même, je trouve, c'est qu'on ne retrouve plus du tout le mot canton nulle part. Enfin, on appelle ça des cantons, mais le fait qu'on supprime élection cantonale, ça devient élection départementale. On perd cette notion qui était quand même au départ, à la Révolution, on vient de le dire, que le canton, c'était certes une entité électorale, mais aussi une entité territoriale.
C'est vrai.
On a l'impression que là, ça disparaît, quoi, en fait. Enfin,
Effectivement, cette idée du territoire disparaît un petit peu. Par contre, il y a pas mal de gens, en fait, qui ne savaient pas du tout que les élections cantonales servaient à représenter au département.
Ah oui, voilà. En fait,
finalement, ça rend l'élection un petit peu plus lisible dans son intitulé aussi.
Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce découpage, où il en est là ?
Eh bien, ce nouveau découpage des nouveaux cantons, il devait être achevé en mars 2014.
Aïe.
moins d'un an avant les prochaines élections départementales et régionales qui auront lieu en mars 2015. Alors,
ah ouais, parce que
c'est pas gagné. C'est pas gagné, évidemment, il y a des oppositions qui sont très fortes, hein, puisque ne serait-ce que sur le département de la Lozère, on passe de 25 à 13 cantons, avec des cantons qui sont parfois extrêmement étendus, et donc on se demande comment ils vont pouvoir fonctionner de façon simple.
Oui, de façon quotidienne.
Même de façon quotidienne, tout simplement. On pense par exemple au canton de Saint-Étienne-du-Val-d'Aunais qui ira jusqu'à Villefort. Voilà, d'un à l'autre, il y a 3 heures de route. Et même si le Conseil d'État, sur cette réforme des cantons, sur ce redécoupage, a rendu un avis globalement favorable, ben, sur 95 départements, il y a 54 conseils généraux qui se sont opposés à ce projet au projet départemental de redécoupage.
Plus de la moitié, en fait.
Voilà.
Plus de la moitié.
Hein. Et puis, il y a de nombreux recours devant le Conseil d'État qui ont été déjà déposés et qui continuent d'être déposés, soit par des collectifs d'élus, soit par des élus individuels. Tout récemment, parce que l'émission est enregistrée à la mi-avril, elle passe en mai, mais elle est enregistrée à la mi-avril, donc début avril, le Conseil général de l'Orne, par exemple, dans la majorité départementale du Conseil général de l'Orne, a déposé un recours au Conseil d'État par rapport à la délimitation, à la dénomination et au choix des chefs-lieux, des nouveaux cantons. Le 8 avril 2014, c'est l'opposition du Conseil général du Lot-et-Garonne qui a déposé un recours, notamment par rapport aux délimitations qui sont estimées politiquement partisanes. On sait aussi qu'en Lozère, un député a déposé un recours, pareil, de la même façon, sur notamment les délimitations.
D'accord. Donc tous ces recours, ben, ils sont en cours donc, d'études, on va dire. Et alors, du coup, ça pose quand même un problème pour les prochaines élections de 2015, parce qu'a priori, la Constitution interdit de changer les règles d'une élection moins d'un an avant sa date.
Exactement. Et comme elles sont prévues pour le mois de mars 2015, il est déjà trop tard finalement pour changer les règles de ces élections de mars 2015.
Et malgré que les décrets soient passés... Tant qu'il y a des recours, en fait, c'est ça.
Tant que ce n'est pas accepté, on peut imaginer qu'il va y avoir des problèmes. Alors par contre, comme la date est dépassée, on peut aussi imaginer qu'une loi peut être créée pour modifier et reporter la date de ces élections.
Bah oui.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas, tout est possible, oui, en effet.
Alors ça pose quand même aussi un problème au quotidien, notamment pour les candidats à ces élections départementales. C'est-à-dire qu'on considère comme dépense rentrant dans une campagne électorale toute dépense qui est faite un an avant les élections. Alors comme on s'est déjà passé par rapport à l'élection théorique, ils savent pas trop si c'est les dépenses qu'ils font actuellement doivent apparaître dans leur compte de campagne ou pas.
Ah oui, et par contre, pour le changement de date d'élection, il n'y a pas de date. Même au dernier moment, on peut changer de date. C'est quand même bizarre, ce truc, du coup. Bon, je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui en savent plus que nous.
Il faudra qu'ils nous expliquent.
Ouais, parce que c'est... Bon, voilà. Donc, en fait, de toute façon, aujourd'hui, du coup, on ne sait rien, en fait, en résumé.
On ne sait pas comment ça va se passer,
on ne sait rien pour 2015, enfin, pas grand-chose. Et puis, on a eu des nouvelles très, 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 très récemment. On vous rappelle que nous sommes je ne sais même pas quel jour on est.
Le 10 avril.
Le 10 avril, voilà.
Et mais vous êtes en mai.
Voilà, vous êtes en mai. Aujourd'hui, le 10 avril, on a eu des annonces le mardi 8 avril de notre nouveau Premier ministre, Manuel Valls, qui annonçait donc
qui annonçait
de nouvelles choses.
Qui voulait, en fait, supprimer les départements en 2021. Donc, du coup, on va se demander à quoi les élections départementales vont servir, puisque s'il n'y a plus de départements, on peut supposer qu'il n'y a plus d'assemblée départementale non plus.
Ouais. En fait, 21, ça fait 6 ans après, donc ça voudrait dire qu'il laisserait un mandat, en fait.
Voilà.
C'est ça, en fait.
Un mandat avec ce nouveau découpage théorique, en tout cas.
Voilà, l'explication de 2021, d'accord.
Voilà. Et ces nouveaux cantons donc, risquent de ne pas servir longtemps comme circonscription électorale pour le conseil départemental. Par contre, on peut largement imaginer qu'ils vont servir à remplacer le département comme circonscription électorale pour le conseil régional, c'est-à-dire pour élire les élus des régions que le Premier ministre veut aussi réduire le nombre des régions par 2 d'ici 2017.
D'accord. Enfin,
donc on est dans une...
Ça ressemble un peu à de la préméditation.
Oui,
je m'excuse du mot, mais en fait, on est en train de modifier le fonctionnement des cantons, plus pour qu'ils s'adaptent à un fonctionnement régional qu'à un fonctionnement départemental.
On va un
peu le dire comme ça.
C'est
un petit peu comme on en a parlé le mois dernier, enfin, dans notre dernière émission avec des communautés de communes. C'est quand même toujours dans le cadre de l'intégration européenne.
Oui, c'est l'histoire. L'idée étant que l'ensemble des pays de l'Union européenne est finalement des territoires de gestion quotidienne et de gestion électorale qui soient les plus similaires en superficie possible.
D'accord. Alors, On dit quand même un tout petit mot de ce que font les conseillers généraux aujourd'hui ou de ce qu'ils ont fait dans le temps. Enfin, on va vous en reparler dans notre émission, en fait.
Mais, on peut juste dire que les conseillers généraux, donc, c'est-à-dire ceux qui sont élus au niveau du canton, hein, aux élections cantonales encore aujourd'hui, enfin, pour l'instant, ça n'a pas encore changé officiellement.
Voilà, vous connaissez tous ici, vos conseillers généraux, quand même. En zone rurale, on les connaît bien, à la ville, on les connaît moins.
Voilà. Donc les conseillers généraux, comme les maires, comme les députés, comme les sénateurs, sont des grands électeurs, et donc ces grands électeurs votent pour élire les représentants au Sénat. Ça, c'est une chose, déjà. Après, sur les questions de compétences et d'enjeux de pouvoir au niveau cantonal, on pourrait parler aussi de la justice de paix. Il y avait des juges de canton, que le chef du lieu de canton aussi était l'endroit où il y avait le collège, la gendarmerie, la perception, etc. Donc c'est vraiment un centre d'un territoire quotidien. Oui. Mais je pense qu'il faudra revenir sur toutes ces questions de compétences, de pouvoir vraiment, qui font l'intitulé de l'émission, mais sur une émission complète, où on reparlerait peut-être des communes, de l'intercommunalité,
oui,
des cantons.
Et de comparer un petit peu les pouvoirs et les compétences des uns et des autres, parce que c'est vrai que tout ça s'imbrique bien. Mais c'est vrai que, bon, dans tous les cas, en zone rurale, bon, comme en Lozère, on voit bien quand même, encore aujourd'hui, l'importance d'un canton. C'est la gendarmerie, c'est le collège. En effet, comme tu dis, il y a toutes ces choses-là qui marquent, en fait, de façon territoriale, un canton.
C'est souvent là où il y a la pharmacie. Voilà. Enfin, la plupart des services, finalement, sont regroupés là.
Bon, aujourd'hui, si on va vers autre chose, ce sera complètement différent. On peut aussi se poser la question, d'ailleurs, par rapport au service public, du coup.
Ah bah oui, complètement.
Par rapport à la subsistance du service public, si on divise les cantons en deux, bon, ben voilà. Ok, alors, bien sûr, pour parler vraiment de ce que fait un conseiller général, il faudrait parler du département.
Voilà.
Et ça, ce sera une prochaine fois. Voilà, ça c'était pour répondre à Aurélien qui voulait savoir ce que faisait un conseiller général. Alors voilà, on pourrait en dire quelques mots, mais c'est vrai que il agit essentiellement dans l'Assemblée départementale. Et donc, nous parlerons dans une prochaine émission des départements. Bien. Ben voilà pour les cantons, on a terminé, Alexei.
Bon, on a fait un petit tour, un peu succinct, qui est sûrement incomplet, parce qu'on n'est pas des pros non plus, mais on essaye de vous faire partager ça.
On essaie de comprendre, et on trouve ça intéressant de se pencher un peu sur ces problèmes-là. Alors ce qu'on vous propose pour l'émission suivante, parce que là il faut que vous... C'est un feuilleton, hein, Pouvoir et Territoire, donc il faut que vous restiez jusqu'au bout. Eh bien on vous propose justement de travailler davantage, de vous parler plus des pouvoirs, en comparant des pouvoirs et des compétences, on va dire, en comparant celle des maires ou des conseillers municipaux, celle des communautés de communes, des conseils communautaires et celle des conseillers généraux ou départementaux.
Selon l'appellation qui est en train d'évoluer.
Voilà, eh bien, nous vous disons au mois prochain.
Merci de votre écoute.
Au revoir.
Au revoir.